Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode du Book Club IUPL, le club de lecture du prix de littérature de l'Union Européenne. Nous sommes en octobre et ce mois-ci nous avons choisi le thème du mystère. On espère que vous avez apprécié notre sélection de livres, La carte des regrets par Nathalie Skowronek, Tous les oiseaux du ciel par Evie Wyld et Journal d'une infidélité par Emilio Solomou. Aujourd'hui, nous avons invité Nathalie Skowronek, lauréate 2020 du prix pour la Belgique, à venir nous parler de son roman. Mais d'abord, petite introduction à propos d'IUPL. Le prix de littérature de l'UE récompense et promeut des auteurs de fiction émergents dans 41 pays, membres du programme Creative Europe. Ces pays sont répartis sur des cycles de 3 ans, donc chaque année le prix est remis à un auteur dans 13 à 14 pays. Le prix est organisé par 3 associations représentant les intérêts des auteurs, éditeurs et libraires au niveau européen et il est financé par le programme Creative Europe. La première édition IUPL s'est tenue en 2009 et depuis nous avons récompensé 135 auteurs à travers 12 éditions. Le but du prix est de promouvoir ces auteurs et, à travers la traduction, leur permettre d'atteindre un public plus grand au-delà des frontières culturelles et linguistiques. Je suis maintenant rejointe par Nathalie Skowronek. Nathalie, ma première question est un peu large. Qui êtes-vous ?
C'est une question large, mais bon, la réponse sera pas très longue parce que c'est difficile de se définir comme ça. Disons que je suis écrivain. J'ai mis un peu de temps avant de pouvoir formuler mon identité comme ça. Il m'a fallu un peu empiler les livres. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, je pense, qui me définit, qui fait vraiment partie de mon rapport au monde, de l'occupation de mon esprit, de ce qui m'anime. Et sinon, évidemment, j'ai, comme tout le monde, des vies remplies, autant possible en tout cas, donc j'écris. J'enseigne aussi, j'ai fait des études de lettres et j'enseigne dans un master d'écriture contemporaine à la Cambre, qui est les Beaux-Arts à Bruxelles. Donc j'enseigne alors pas les techniques d'écriture parce que j'y crois pas vraiment qu'on apprend à écrire, mais en tout cas voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup où on réfléchit sur ce qu'est la création et j'essaye de mettre les participants au travail pour qu'ils arrivent à trouver leur voie. Et sinon, je suis une femme, une maman, etc., une lectrice, une maîtresse de chien. Je suis un peu tout ça.
Plein de casquettes différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler des livres que vous avez écrits ?
Oui, écoutez, brièvement, donc La carte des regrets, qui est le livre pour lequel on se rencontre aujourd'hui, est mon cinquième livre. J'ai commencé à publier il y a presque 10 ans maintenant, en 2011. Le premier livre s'appelait Karen et moi, et c'était une narratrice de 30 ans qui s'était un peu perdue dans sa vie, et qui demandait à l'auteur Karen Blixen, l'auteur de La ferme africaine, elle demandait à la Karen d'avant l'écriture, donc celle qui tâtonne et qui ne sait pas, comment est-ce qu'elle a fait pour trouver son chemin. C'est un livre d'émancipation et déclaration d'amour à la littérature. Et donc après, j'ai essayé de poursuivre sur ce chemin-là en faisant d'abord une espèce de premier cycle. Les livres ne se suivent pas, mais peut-être se répondent, qui est un cycle familial. Essayer de voir d'où je viens, quel est mon héritage. Alors, c'était d'abord une famille un peu réduite et puis qui s'est élargie puisque de ma famille proche, j'ai extrapolé vers une communauté juive originaire de Pologne, d'Europe de l'Est, de laquelle moi j'étais ici, et donc qui est à la fois une communauté qui a traversé l'histoire du XXe siècle d'une façon évidemment très particulière, une histoire d'exil, de migration, de guerre aussi, et puis d'intégration, puisqu'après j'ai travaillé sur le métier de la confection, puisque je venais d'un milieu de confectionneurs juifs, et c'était une spécificité assez forte dans ce milieu-là, dans ces années-là, et donc voir aussi voilà, comment cette famille, la mienne, puisque je suis née dans un magasin, et puis sens plus large, cette communauté, après-guerre, s'était réinstallée socialement et professionnellement. Et donc, voilà, travailler sur la question des héritages, et ça m'a occupée pendant plusieurs années. Donc, j'ai écrit 3 romans et un essai autour de ces questions. Et puis, est arrivé il y a quelques mois, maintenant, en février 2020, la carte des regrets. Jusque-là, c'était des romans vrais. Là, c'est mon premier vrai roman avec un livre de fiction qui, évidemment, aussi à voir avec ma sensibilité, avec des sujets que je voulais traiter, mais en tout cas, c'est un autre traitement d'un sujet en inventant vraiment une situation et en créant pour la première fois des personnages pas issus de nulle part, mais en tout cas, sont des personnages fictionnels, alors que jusque-là, je travaillais avec des personnages qui avaient existé et en prenant évidemment un grand plaisir à transformer un peu les choses, à exagérer, à diminuer, à déplacer, mais en tout cas, la matière première était une matière familiale, c'était des personnes de mon entourage.
Qu'est-ce qui était le déclic qui vous a fait écrire votre premier livre ? Est-ce que c'était justement cette histoire-là que vous aviez besoin de raconter, cette histoire familiale ?
Non, je pense pas qu'on écrive parce qu'on a besoin de raconter quelque chose. Je pense qu'on a envie d'écrire et on cherche ce qu'on va raconter. Je ne pense pas que ce soit le sujet ou le type de vie qu'on aurait vécu ou le message qui crée l'écrivain. Je pense que ça va dans l'autre sens. Et dans un premier temps, nous, j'ai été très loin de cette histoire personnelle, puisque Karen et moi, je suis partie sur les traces de Karen Blixen au Danemark et au Kenya, avec cette idée de ne pas me rapprocher trop de cet imaginaire juif du XXe siècle qui était le mien. Puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un terrain d'investigation absolument passionnant, parce qu'à la fois, je savais de quoi je parlais, et puis c'est une histoire qui traverse le XXe siècle, qui est en fait à une toute petite échelle, une espèce de parcours qui m'a amené des Shtetl de Pologne jusqu'au Bangladesh, dans les usines textiles du XXIe siècle, avec la mondialisation générale, et en particulier du milieu de la confection. Donc c'est un tout petit point de départ, mais qui m'a amené très loin, et ça s'est fait progressivement, d'abord en se disant non, je vais pas parler de mon histoire, et puis se rendant compte qu'en fait mon histoire était une façon de regarder non pas mon nombril, mais je pense quelque chose de plus large. Donc c'était par étapes que les choses se sont construites.
Il y a beaucoup de références historiques, beaucoup de sujets que vous abordez à travers tous ces romans. Quelle est votre méthode de travail ?
Chaque livre a son propre tempo et sa propre grammaire, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a la pensée en escalier, donc j'avance comme ça par strates. J'ai pas de plan, j'ai pas une idée précise de par où ça va passer, mais j'ai au loin une espèce d'horizon que j'espère atteindre, cette lumière là au milieu de la forêt, et ça me sert un peu de balise. Et j'essaie d'avancer avec des éléments assez différents qui sont à la fois, dans le cas de mes premiers livres, espèce de légende familiale que j'ai entendue et que je transforme. Je m'appuie évidemment sur des archives, pas forcément mes archives, les archives de ma famille, mais il y a cette idée de se dire que ce qui est arrivé à l'un ou l'autre ou à des cousins, ben je peux l'injecter dans ma propre histoire. Donc il y a un travail historique, il y a un travail d'archives, il y a effectivement tous les on-dit familiaux, les choses qu'on a entendues, enfants, qu'on réorganise ou qu'on revoit différemment. Par exemple, pour mon deuxième livre, Max en apparence, je raconte comment enfant, et ça c'est véridique, je passais de Berlin-Ouest à Berlin-Est, comme on était en plein dans les années 80, comme si tout était ouvert, alors qu'on était vraiment au moment très dur de la guerre froide. Et évidemment, ça, c'est un souvenir d'enfant très précis, mais qui était absolument inintelligible pour moi quand j'étais une gamine, et que je vais revoir avec le recul, et évidemment avec une connaissance historique que je n'ai pas au moment même. Donc, il y a effectivement beaucoup de travail de recherche, et puis beaucoup, parce que c'est comme ça que je fonctionne, beaucoup de lecture. J'adore être entourée de livres et de grands livres. Je trouve que c'est plus stimulant que le contraire, même si parfois c'est intimidant. Et donc, voilà, je m'appuie sur tout ce réseau d'informations, et même en rassemblant tout ce réseau-là, il reste plein de blancs. Et quand il y a des blancs, ben je fais fonctionner mon imagination et ma sensibilité propre.
Moi, j'ai entendu souvent dire que des fois, le premier jet, c'est le meilleur. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, je pense que le premier jet a une innocence, une vérité, une espèce de malgré soi qui est extrêmement précieux et qui est vraiment le socle sur lequel on va travailler. Après, je ne crois pas que l'écrivain inspiré suffise à apporter un texte sur la longueur. Je pense qu'effectivement, il y a du travail, après un rythme, une langue, construction. Tout le challenge de l'écrivain, c'est d'essayer de trouver ce juste milieu entre ne pas faire quelque chose de fabriqué, ça n'a aucun intérêt, si on n'est pas porté par une nécessité, par quelque chose qui jaillit de nous-mêmes, qui est plus grand que nous et qui est plus fort que nous, Franchement, c'est pas la peine. Il suffit dans les librairies pour voir le nombre de livres qui sont publiés. C'est pas la peine. Il faut cette nécessité-là, mais il faut pas se dire que juste ça, ça suffit. Je pense qu'après, il y a une justesse intérieure, une nécessité intérieure, et puis il y a une logique de texte qui fait qu'on cherche bien plus que la vérité, on cherche la justesse du texte, on cherche à le servir, et pour ça, oui, c'est du travail. Mais encore une fois, moi, je travaille par moment, par strate, et on ne peut pas faire l'économie de l'un ou de l'autre. On n'écrit pas un livre de façon cérébrale, comme mon frère résoudra une équation de mathématiques, en tout cas, ce n'est pas du tout mon truc, et on ne fait pas uniquement confiance à son inconscient et son inspiration en disant que la première pâtée sera surtout ne pas toucher au génie de l'auteur. Non. Donc voilà, le vrai est entre tout ça. C'est du travail, c'est un merveilleux travail, j'ai une chance folle. j'adore ça.
Là, on se retrouve pour le club de lecture de IUPL. Et le thème de ce mois-ci en particulier, c'est en anglais « Mystery Novel ». Alors, j'ai essayé de trouver l'équivalent exact en français, mais je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça, parce qu'on peut parler de polar en français, de roman policier, de thriller. Je ne sais pas si ça recouvre vraiment mystery novel, qui me semble un peu plus large. On pourrait peut-être dire roman en mystère, littéralement. Est-ce que La carte des regrets s'inscrit dans cette catégorie, selon vous?
Alors, j'espère que la littérature englobe plusieurs catégories, hein. Le bol d'être assigné comme ça à des places, donc voilà, j'espère que les étiquettes sont importantes pour un petit peu s'orienter, et en même temps elles sont parfois un peu réductrices, mais oui, je crois que vous avez visé juste, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie envie avec La carte des regrets d'aller côtoyer le mystère, d'aller dans les zones les moins éclairées d'une vie et d'une mini société. C'est mon premier livre, donc, où je mets en place une intrigue avec, si pas une résolution limpide, en tout cas des pistes possibles de résolution. Jusqu'ici, je tournais autour d'un sujet, mais c'était pas au sens strict. On part d'un point A et on arrive au point B. On tournait beaucoup plus autour d'un noyau dur. Or, ici, dans La carte des regrets, j'ai vraiment voulu tester ce rythme de lecture où il y a une tension qui s'installe d'emblée, et ou une envie de tourner les pages pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Sauf que dans La carte des regrets, c'est une fausse intrigue policière, c'est un faux polar, c'est un livre de mystère, mais le mystère n'est pas là où on pense qu'il se trouve, en fait, parce que l'héroïne Véronique Verbruggen meurt à la première page du livre, donc je ne dévoile pas grand-chose. Elle meurt sur un sentier des Cévennes, et on pourrait penser que le mystère se trouve là, ce qui lui est arrivé. Pourquoi est-elle morte? Dans quelles circonstances est-elle décédée? Et en fait, on comprend très vite que le mystère ne se situe pas au niveau de la mort de Véronique Verbruggen, mais qu'elle se situe au niveau de sa vie, et que c'est sa vie qui était pleine de mystères et de couloirs parallèles. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai essayé de construire. Donc, une fausse intrigue policière, où comme il se doit au tout début, il y a bien une enquête, il y a bien des policiers, il y a bien un commissariat, donc il y a une autopsie, mais en fait, c'est pas là que ça se passe, c'est une fausse piste.
C'est quelque chose que vous lisez, vous, les romans policiers?
Alors non, je ne suis pas une grande lectrice de romans policiers, moi j'adore les livres où il ne se passe rien, mais pour La carte des regrets, j'ai lu beaucoup de livres en fait qui sont des livres où on a envie de connaître la fin de l'histoire. Je me suis beaucoup amusée à lire des choses comme ça, et surtout je me suis amusée à relire des livres qui m'avaient complètement emportée, parce que je voulais tourner les pages et je voulais savoir comment ça allait évoluer. Et donc j'ai relu ces livres-là, en général avec plusieurs années de distance, et je dois dire que je ne me suis pas spécialement amusée avec ces livres qui reposaient sur une intrigue. À partir du moment où l'intrigue était connue, je n'avais pas le même entrain à lire le livre, et donc j'ai vraiment réfléchi pour La carte des regrets, voilà, à donner l'apparence d'une intrigue à dénouer, mais en fait à situer le cœur du livre ailleurs. C'est ailleurs, c'est une femme donc qui meurt et qui est pleurée par deux hommes. Il y a deux hommes qui revendiquent le veuvage de cette femme, le chagrin de sa disparition. et qui vont non pas s'affronter comme deux coqs pourraient s'affronter, parce que ce sont évidemment deux hommes merveilleux et très amoureux de cette femme, qui ont été en tout cas très amoureux de cette femme, sinon s'il y avait un chevalier et un vulgaire, ce serait très facile à résoudre. Donc là, ce sont deux chevaliers qui vont essayer donc de s'affronter, non pas frontalement, mais en essayant chacun à leur façon de continuer à faire vivre la mémoire de Véronique Verbruggen. C'est un livre sur la mémoire, la même façon que mes premiers livres parlaient d'une mémoire beaucoup plus historique et grave. Ici, c'est une femme morte et qui va raconter l'histoire de sa vie. Et tout l'enjeu de Cœur des regrets, c'était de donner raison à personne. Et donc, ce sont des vérités comme ça qui vont s'accumuler, qui ont chacune leur raison d'être, leur justesse, leur logique. Et donc, elles s'affrontent, mais elles s'affrontent sur le mode de la tragédie d'une certaine façon, parce que c'est impossible, en tout cas, de mon point de vue, de hiérarchiser les choses ou de distribuer des bons et des mauvais points. Et c'est le lecteur, maintenant que j'ai un petit peu de recul, puisque la carte de regret sortie il y a quelques mois a été lue, heureusement, merci. Et donc, avec ça, j'ai du recul et je vois à quel point les lecteurs vont se positionner en disant je comprends mieux cet homme-là, ou je comprends mieux cet homme-là, ou je comprends mieux cette femme, ou je comprends pas cette femme. Et en même temps, ce que je sens aussi, c'est qu'évidemment, ça renvoie au propre conflit qu'on peut avoir les uns et les autres, quelle que soit la nature du conflit. Ici, c'est un double amour qui fait écho à une double aspiration de Véronique, faite de plusieurs choses, mais ça renvoie aussi à toute la complexité de chacun qui parfois peut être embourbé dans des choix qui ne sont pas clairs, dans des modes de vie. C'est pas nécessairement amoureux, mais ça se met d'une façon où on a l'impression que ce qu'on est ne se réunit pas, qu'on est morcelé, qu'on est écartelé, qu'on est tourmenté. Comment on peut réunir ça? Et je me suis rendu compte que effectivement le livre amène les lecteurs à se demander de la même façon qu'on se demande et si Véronique n'était pas morte, que ce serait-il passé. Les lecteurs se demandent aussi, et si moi je me retrouvais dans la situation de cet homme-là ou de l'autre homme, donc du mari ou de l'amant ou de la femme ou de la fille, parce qu'évidemment il y a un quatrième personnage qui est Mina, qui est la fille de Véronique et qui elle a un regard complètement différent. Elle n'est absolument pas extérieure, elle est complètement partie prenante, mais c'est une fille, elle n'est pas dans une relation amoureuse. Et donc on se demande comment on aurait fonctionné nous dans ce genre de situation. La question finalement qui est posée en filigrane, c'est justement que sait-on de l'autre? Parce qu'on parlait de mystère, je pense que le mystère, il est là, et ça, c'est un mystère assez universel et assez communément partagé. Est-ce que ce que je montre de moi est vraiment ce que je suis, ou est-ce que je montre qu'une partie de moi? Est-ce que le monde est prêt à voir chacun tel qu'il est, sans filtre, ou est-ce que le monde, la vie sociale, les relations humaines demandent de composer, de bricoler, de s'ajuster? Et on est tous pris, je crois, dans ces filets-là, pour des bonnes ou parfois des mauvaises raisons, pour des idées fausses. On croit qu'on doit être une certaine personne alors qu'on est quelqu'un d'autre. On a des espèces d'injonctions familiales, professionnelles, facebookiennes qui nous poussent à nous composer un personnage qui fait qu'à un moment donné, on s'éloigne du noyau de ce qu'on est. Et dans le cas de la carte des regrets, ce sont des personnages qui partagent très grande intimité, une intimité de nature différente. C'est un livre qui est explosé géographiquement, puisqu'il se passe entre Paris, Gand et les Cévennes, et l'héroïne Véronique n'est pas la même selon qu'elle est dans une des parties du monde, comme si chaque espace correspondait à la fois à d'autres relations et une autre façon de vivre. Et donc, même ces gens-là qui côtoient Véronique d'une façon très proche et très authentique ne connaissent jamais qu'une partie d'elle-même, de la même façon qu'elle ne connaît qu'une partie des autres. Et donc, il y a cette idée du mystère qui me touche beaucoup par rapport à cette ère de la transparence. Aujourd'hui, on veut tout connaître des uns et des autres. On met en scène notre propre intimité, notamment sur les réseaux sociaux. On devient chacun notre propre communicant. Une fois qu'on a enlevé tout ce vernis-là, tout ce pipeau, qu'est-ce qui reste de soi? Qu'est-ce que l'autre perçoit des uns et des autres? Je crois que c'est aussi un livre sur la, la représentation. Il y a beaucoup de questions de peinture dans ce livre-là. Véronique est une passionnée de peinture, une éditrice de monographies de petits maîtres. Titus, ses hommes, est réalisateur de documentaires. Et Daniel, le mari, est ophtalmologue. Donc le regard est omniprésent. Et la représentation de soi et des autres. Et donc c'est aussi tout ce jeu social où parfois on montre des choses et les autres détournent le regard, parfois on dit des choses ou on montre des choses, on est persuadé que c'est très visible et puis ça reste complètement invisible pour ceux qui sont autour de nous. Donc il y a tout ce flou entre voir, s'aveugler, le risque aussi de voir les choses d'une façon trop brutale. Enfin voilà, tout ça, c'est cette thématique et c'est de là que se crée un mystère qui n'est effectivement pas un mystère qui a tué Véronique, mais qui est finalement le mystère des êtres.
Nathalie, vous voulez bien nous lire un extrait de La carte des regrets ?
Je vais lire le début, un petit bout du début. À la fin de l'article, on ne savait pas à quoi s'en tenir. Il était beaucoup question d'amour. Véronique Verbruggen était pleurée, mais on ne comprenait pas. Qui aimait qui? Qui était aimé de qui? L'article évoquait une invitation à rendre hommage à la disparue. Que ceux qui ont connu et aimé Véronique Verbruggen soient les bienvenus. Or, à ces propos, tout laissait à penser que Titus Séguier ne quitterait pas sa maison de Finielles, un petit village du Mont-Lozère, pour honorer sa mémoire. Il s'était pourtant juré de ne jamais décevoir cette femme, avait-il glissé aux journalistes avant d'interrompre leur conversation. De cette femme, directrice d'une petite maison d'édition, on savait un peu plus. Sa complice de longue date, la céramiste italienne Francesca Orsini, parlait d'une personnalité secrète dont le professionnalisme, la capacité d'écoute et l'engagement avaient permis de faire des éditions Dupont, une maison au catalogue exigeant, défendant des artistes injustement oubliés. L'article ne proposait qu'une illustration de mauvaise qualité. On y découvrait le sigle VV des couvertures de la maison, sobre, élégant, qui ici n'apportait aucune information utile. Pour se figurer Véronique, il suffisait d'introduire son nom sur n'importe quel moteur de recherche. Que savons-nous de l'existence de ceux qui nous entourent? Que nous montrent-ils d'eux-mêmes? Que dissimulent-ils? Mina, sa fille de 21 ans, qui sortait doucement de l'adolescence et venait de s'inscrire au conservatoire de musique en classe de piano, s'était exprimée avec prudence, dans un style probablement remanié par le journaliste. Ma mère avait une façon bien à elle de travailler, d'aimer, de respecter les règles et de les transgresser. Je veux rester fidèle à ce qu'elle était.
Merci Nathalie.
Plaisir.
On a parlé de mystère. Est-ce que vous avez des livres justement autour du mystère que vous souhaiteriez recommander peut-être ou qui vous ont inspiré?
Oh, des livres qui m'ont inspiré autour. Mais écoutez, j'aime beaucoup dans le genre Virginia Woolf. Ce sont des livres qui ont une atmosphère extrêmement particulière et vraiment une atmosphère mystérieuse. Je pense aux Vagues ou je pense à Mrs. Dalloway et où voilà, on comprend bien qu'en fait entre ce qu'on voit et ce qu'on nous montre. Et ce qui est caché, ce qui est non dit, il y a vraiment tout un monde entre le réel et le souterrain. Et ça, c'est le mystère vraiment qui me plaît et qui m'intéresse. Je conseillerais Virginia Woolf pour le mystère. Et alors, comme on est quand même, je suis quand même la lauréate belge, je pense là comme ça au bijou de la Castafiore de Hergé, donc le Tintin. J'aime beaucoup Tintin et là on est aussi dans une espèce de mystère absurde où tout le monde parle tout le temps et personne ne s'entend et personne ne se comprend. Et je trouve que par rapport à La carte des regrets, il y a quelque chose. Alors on n'est pas du tout dans les mêmes environnements, on est dans du burlesque, mais cette idée de ce décalage finalement qui existe entre les êtres, et c'est probablement ça qui fait souffrir les hommes et les deux femmes de La carte des regrets.
Merci Nathalie. Et pour finir, si on veut vous retrouver dans les semaines à venir, qu'est-ce que vous avez de prévu?
Ah bah écoutez, Covid, c'est un petit peu compliqué. Donc, je viens de terminer les derniers salons, mais je serai le 10 novembre à Bruxelles. Il y a la Nuit des écrivains qui se déroule au Théâtre 140 et on sera plusieurs auteurs à être présents ce soir-là. Sur Facebook, il y a des choses. Et puis, j'ai un site sur mon nom à moi. Et c'est un site dans lequel on peut effectivement retrouver pas mal d'interviews, des radios que j'ai faites, des articles de presse et puis éventuellement les rencontres quand elles s'annoncent. Donc oui, tout ça est sur le site. J'anime aussi des ateliers écriture et littérature à partir du printemps dans le sud de la France. Et je suis aussi sur Instagram. Enfin voilà, j'essaie de communiquer et de rester en contact avec les uns et les autres puisque la situation maintenant est très particulière. Et puis voilà, on devient spécialiste dans les outils technologiques et ça marche pas mal. Donc,
voilà. Ça c'est sûr. Merci Nathalie et prenez bien soin de vous.
Merci vous aussi. Merci beaucoup.